leur chant. Hors champ, aujourd'hui avec Ted Conover. Ted Conover, vous êtes écrivain, auteur de nombreux textes, Rolling Nowhere, Coyote, Lost in Aspern, Guarding Sing Sing. Le premier de vos livres vient d'être traduit en français. Il s'intitule donc « Au fil du rail ». Vous êtes ce qu'on appelle un écrivain, en France on dit écrivain voyageur, mais j'étais très étonné de voir que vous étiez né en 1958 à Okinawa. Donc, voyageur déjà, puisque vous avez été élevé ensuite et vous vivez toujours aux États-Unis.
Oui, c'était tout à fait vrai. Mon père était pilote de la marine américaine. Je ne me souviens pas bien du Japon, mais je suis très fier d'avoir été né en dehors des États-Unis.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de pouvoir écrire sur le monde et de décider très très jeune que pour pouvoir comprendre le monde, eh bien, il fallait faire beaucoup de jobs différents, épouser la fonction. Par exemple, on va revenir sur cette prison de Sing Sing où vous êtes engagé comme gardien pour pouvoir en écrire. Comment ça a commencé ? De devenir un autre puis des autres.
So I had the good fortune to be raised.
J'ai eu la chance d'être élevé dans une famille de la classe moyenne à Denver, dans l'État du Colorado.
I was well supported by my parents.
Mes parents
and friends.
Et mes amis m'ont bien entouré.
But it seemed to me
that il m'est apparu que plutôt que de mener une vie traditionnelle, je me suis dit que j'avais tout ce qui était nécessaire pour voir d'autres choses et explorer les autres vies que j'aurais pu vivre si j'avais été élevé de manière différente. Ainsi, j'ai toujours voulu connaître des gens différents de moi. Et si j'avais été né là-bas? Et si ces gens-là avaient été mes parents? Et si j'avais vécu dans ces circonstances? Est-ce que j'aurais pu bien m'en tirer? Quelle aurait été ma vie? Qu'est-ce que j'aurais pu voir? Voilà les questions que je me suis posées.
À partir de quel âge vous êtes-vous posé ce genre de questions?
When I became a teenager,
quand j'étais
I was the subject
ado,
of a court-ordered desegregation where white kids
j'ai fait l'objet d'une déségrégation, à savoir que les blancs de mon quartier devaient aller à l'école dans un quartier où il y avait beaucoup de noirs américains. Une espèce de déségrégation, donc j'étais intégré dans une minorité ethnique, si vous voulez. C'était tout à fait fascinant, d'ailleurs. Et à ce moment-là, je me suis intéressé à voyager pour connaître cette situation de façon différente. Donc j'ai fait des études au Mexique, puis en Espagne. Par la suite, j'ai fait un voyage en vélo en Amérique du Nord pour aller à l'université, parce que, évidemment, vous l'avez compris, j'aime bien l'aventure.
Et vous avez fait des études d'anthropologie, Ted Conover. Et ça, je pense que ça a été très important pour pouvoir comprendre votre regard, votre absence de jugement et votre manière d'épouser les gens sur lesquels vous allez écrire, mais que vous voulez d'abord comprendre, dont vous voulez comprendre tous les rites initiatiques. Que vous ont apporté ces études d'anthropologie?
So before I got to university, I had worked as a student journalist.
Avant l'université, j'étais étudiant journaliste. Et en tant que journaliste, on pose des questions aux autres, évidemment. Mais en tant qu'anthropologue, on peut aller plus loin. on peut aller au-delà d'un simple entretien pour faire montre d'empathie, passer du temps avec l'autre, partager un repas, voir un voyage, dormir au même endroit. On peut apprendre beaucoup plus que si on travaille dans un bureau et on se contente d'écrire un article sur des gens. Donc, j'ai considéré que l'anthropologie constituait un moyen d'approfondir mes compétences d'écrivain. Et j'ai proposé un projet dans lequel je m'embarquais dans un voyage à bord de trains de marchandises.
Alors, racontez-nous cette aventure qui vous a fait connaître de la presse underground américaine, cette aventure qui a été le fruit d'un long travail et qui donne lieu à un livre qui ne nous parvient qu'aujourd'hui dans sa traduction française, qui s'intitule « Au fil du rail ». Cette aventure de partir sur des trains pour vivre avec ce qu'on appelle les hobos, c'est-à-dire des sans-domicile fixes qui voyagent d'un territoire à l'autre en Amérique de manière clandestine et illégale. Cette aventure à la fois romantique, romanesque et en même temps politique, cette aventure fait penser à l'idéal de Jack Kerouac. Est-ce que vous avez été influencé par Jack Kerouac, Ted Conover?
It's funny, I read Jack Kerouac's On the Road before
La route de Jack Kerouac. Je l'ai lu avant moi-même de me lancer dans cette aventure. Et j'ai lu le livre de Jack London qui traite du même sujet. J'ai lu d'autres ouvrages de l'ère de la récession aux États-Unis, donc des tas de gens qui se sont lancés dans des aventures dans l'Ouest américain. Et je savais bien que il s'agissait là d'un épisode assez sombre de l'histoire américaine, parce que les gens n'ont eu d'autre choix que de bouger, de déménager pour aller trouver du travail. Mais en même temps, c'est romantique, comme on le dit, parce qu'on saute à bord d'un train de marchandises et on affirme sa liberté en se faisant, on affirme sa personnalité. Et donc, on est totalement libre. On peut aller où on veut, quand on veut, et on peut vivre comme bon vous semble. Donc, cette tension, j'ai voulu l'étudier. S'agit-il de pauvreté ou s'agit-il de liberté? Donc, je me suis plongé là-dedans pour essayer de répondre à cette question.
Alors, vous avez une qualité d'écriture qui privilégie les portraits, qui met en scène les situations, et vous avez cette capacité assez prodigieuse, Ted Conover, de devenir l'autre. Là, avec les hobos, vous devenez comme eux. Vous épousez leur manière de vivre. Vous devenez aussi violent qu'eux au moment où il le faut. Comment redevenez-vous celui que vous êtes une fois que l'aventure est terminée?
So I think to have this experience and do it properly,
pour vivre cette expérience comme il faut, il faut un maximum d'empathie.
You can never go all the way.
Évidemment, on ne peut pas arriver à la forme la plus aboutie de l'empathie, parce que être un hobo, c'est comprendre ce que c'est que d'être sans domicile fixe. Moi, je n'ai jamais vraiment été SDF.
Et
je crois qu'il s'agit là d'une cicatrice que l'on garde à jamais en soi. Cela dit, j'ai passé plus de 4 mois à vivre aux côtés des vagabonds et à respirer le même air qu'eux. Et donc j'ai commencé à voir les choses de leur point de vue. Et c'était difficile pour moi de retourner à la vie précédente. C'était un petit peu comme un élastique, si vous voulez. Un élastique sur lequel j'avais tiré, et une fois que l'on tire sur cet élastique, il ne revient pas exactement à sa forme d'origine. C'est intéressant, c'est là-dessus que j'ai voulu écrire.
Comment choisissez-vous les milieux dans lesquels vous allez tenter et très souvent réussir, Ted Conover, les milieux sur lesquels vous allez travailler? Comment avez-vous décidé de devenir gardien dans la prison de Sing Sing et pourquoi?
Yeah, so there's always initial barriers to joining a group.
Il y a toujours des barrières qu'il faut surmonter pour se mêler à un environnement. S'agissant des hobos, des SDF, là, j'étais plus jeune que... Avec mon deuxième livre, Coyote, je suis blond et je suis américain et il faut que je me justifie. Alors, s'agissant des gardiens de la prison de Sing Sing, là, je suis de petite taille, pas très baraqué, et en plus de ça, j'ai un bagage universitaire. Et par ailleurs, je vivais à New York à l'époque et tous les Blancs qui travaillent en prison viennent en dehors de New York. Ce sont les Noirs américains qui viennent de New York pour travailler à la prison. Donc moi, j'étais un petit peu à part, une fois encore.
Alors, comment ça s'est passé? Comment avez-vous réussi à, si j'ose dire, vous mettre dans la peau d'un gardien de prison qui est plus... tenter de comprendre les prisonniers que de défendre le corporatisme des gardiens. Car à chaque fois, dans vos ouvrages, Ted Conover, il y a une visée anthropologique, la restitution d'un monde qui, nous, ne nous est pas permis. Donc vous nous le donnez, ce monde. Mais il y a aussi une visée politique de faire comprendre de l'intérieur ces réalités dont on parle assez peu.
I do, and I choose groups that I think the general public doesn't understand well enough.
Je choisis des communautés que le public ne comprend pas suffisamment bien à mes yeux. Les migrants constituent un groupe comme cela. Les hobos, les vagabonds aussi. Et les prisons américaines sont dans un état social déplorable et c'est très difficile pour un journaliste de comprendre ce qui s'y passe parce que la réglementation ne permet pas à n'importe qui de visiter les prisons. Mais moi, vous me demandez comment j'ai pu me mettre dans la peau de ces prisonniers ou des gardiens. Eh bien, d'abord, on met l'uniforme. Le pantalon, la chemise, la ceinture, les gants, le petit clip pour les clés, le pulvérisateur, vous avez le livre avec toutes les règles dans votre poche, et la moitié de votre cerveau devient le cerveau d'un gardien de prison. Et lorsqu'on travaille, heure après heure, auprès des autres gardiens, lorsque l'on surveille des hommes qui sont très en colère et qui ne vous aiment pas parce que vous avez cet uniforme, eh bien là, vous apprenez ce que c'est que d'être un gardien de prison. Et la partie la plus difficile, c'est de revenir, prendre un petit peu de recul et d'avoir une espèce de compassion pour les prisonniers.
Est-ce que vous avez l'impression que votre travail peut être utile au fonctionnement de votre propre société aux États-Unis? Parce que vous êtes aussi journaliste, il faut le préciser, et la plupart de vos reportages font la une du New York Times, bien souvent.
I certainly hope so. I write for my
country. En tout cas, j'espère. Moi, j'écris pour mon pays. La description des prisons, je l'ai faite de la point de vue des gardiens. Parce que je ne voulais pas être une voix supplémentaire qui dit qu'il faut réformer les prisons. Je voulais m'adresser à tout le monde pour montrer que le système pénitentiaire ne fonctionne pas. On dépense trop d'argent, les prisonniers passent trop de temps, les gardiens perdent leur âme dans ce travail et évidemment ça déteint sur leur famille de manière particulièrement délétère. Donc rien de tout cela ne fonctionne bien. Tout le système mérite d'être réformé. Donc, c'est cela que j'avais en tête lorsque j'ai fait cette description.
À l'été 2003, justement pour le New York Times, et traduit en français, nous avons pu lire une enquête de vous, Ted Conover, faite à Guantanamo. Et vous avez pu rentrer à Guantanamo et vous nous racontez qu'à cette époque-là, je ne sais pas si Obama a tenu ses promesses depuis, mais en tout cas, il y avait à l'époque plus de 600 membres présumés d'Al-Qaïda qui étaient détenus dans cette base américaine installée à Cuba. Et vous nous racontez de l'intérieur, avec des mots très secs, choisis, je pense, exprès, comment ils sont bien soignés, mais comment psychologiquement ils ont tous envie de mourir. Comment avez-vous réussi à rentrer dans Guantanamo?
When you leave a prison, you think,
lorsque l'on quitte une prison, on se dit, bon, l'expérience que je viens d'acquérir ne sera utile nulle part ailleurs. Je peux travailler au service des plaintes d'un grand magasin, mais en dehors de cela, cette expérience est inutile, ça ne sert à rien. Puis, tout à coup, il y a eu le 11 septembre, et puis la fameuse guerre contre le terrorisme et la réaction de mon pays, qui a consisté à mettre en place Guantanamo et Abu Ghraib. Et puis donc, vous voyez, une extension du confinement solitaire que nous avons tant et tant mis en place aux États-Unis. Il y a un certain nombre de magazines qui ont vu en moi une forme d'expert. Ils ont vu en moi un spécialiste pour la description de la guerre contre le terrorisme, mais vu d'un point de vue différent. Donc, pour le New York Times, je me suis rendu très tôt à Guantanamo et je me suis rendu il y a 2 ans pour Vanity Fair. Et mon point de vue, je le donne en parlant aux équipes qui y travaillent. Le journaliste n'a pas le droit de parler aux prisonniers, mais en parlant aux gens qui y travaillent, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. En fait, on apprend tout. On apprend à connaître le quotidien des détenus. On comprend leur distorsion psychique. Ils n'ont plus d'espoir parce qu'ils ne sont inculpés de rien. Il n'y a pas de verdict. Donc, moi, en tant qu'Américain, je me dis que c'est un devoir pour moi d'y aller avant sa fermeture.
Et que se passe-t-il en ce moment même à Guantanamo?
Le président Obama
a essayé de réduire le nombre de détenus pour s'approcher de sa promesse de fermeture. Mais comme vous le savez, un certain nombre de lois ont été votées et il n'a pas le droit d'envisager le transfert de ces prisonniers vers les États-Unis. Le territoire principal des États-Unis, on pourrait les garder sans problème. En réalité, il n'y a pas de pouvoir surnaturel. Ce sont des hommes vieillissants qui sont bien moins menaçants que d'autres prisonniers tels que ceux que j'ai pu voir en prison. Mais aux États-Unis, nous avons cette peur quasi hystérique des détenus de Guantanamo et c'est pourquoi la fermeture est difficilement envisageable.
Nous allons écouter la voix de Barack Obama en campagne contre Donald Trump. Il va critiquer le candidat désigné par le Parti républicain. C'était le 6 mai dernier.
Je veux juste vous dire à quel point la période est importante et le travail est sérieux. Ce n'est pas de l'entertainment, ce n'est pas de la télé-réalité. C'est une compétition pour la présidence des États-Unis. Ça signifie que tous les candidats doivent faire l'objet d'une attention minutieuse. Et ça veut dire que s'ils affirment qu'ils ont des solutions au problème, cela doit être crédible et ils doivent donner des détails. Si c'est complètement farfelu et que cela ne marche pas, il faut le dire, les gens ont besoin de le savoir. Ce qui me préoccupe, c'est à quel point l'information pourrait insister sur le spectacle et le cirque, parce que nous ne pouvons pas nous le permettre. Les Américains ont un bon jugement et une intuition fiable, à condition qu'ils aient les bonnes informations.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive aux États-Unis? Comment comprenez-vous la désignation de Donald Trump? Et que pensez-vous de tout cela, Ted Conover?
Trump's rise has been driven by fear.
La montée de Trump, il la doit à la peur. La peur de ce qui s'est passé à Paris en novembre. La peur qu'ont les Américains face au risque prétendu des musulmans. Trump, bien qu'il n'y ait pas beaucoup pensé à mon avis, parle avec ses tripes, il parle avec ses sentiments les plus crus qui soient. Certains de mes amis à New York enseigne la citoyenneté à des femmes musulmanes qui veulent la citoyenneté américaine, et elles veulent terriblement cette citoyenneté américaine parce qu'ils ont peur que les États-Unis les expulsent de manière un peu éhontée, telle que nous avons pu le faire avec d'autres groupes. Mais moi, à mon sens, il y aura un retour de manivelle, du moins je l'espère, chez les gens qui savent que notre pays repose sur des principes bien plus solides que ceux qu'évoque Donald Trump. Et j'espère que nous ne succomberons pas à cette xénophobie et à ce déversement éhonté de peur.
Mais justement, à travers tous vos livres, Ted Conover, vous ne vous intéressez qu'à ceux qui sont désignés comme dangereux, à ceux qui sont marginaux, à ceux qui sont emprisonnés, à ceux qui peuvent porter une perturbation au système de fonctionnement de la société américaine. Est-ce que vous pensez que dans la montée de représentativité et d'adhésion, y compris des plus jeunes Américains, à la candidature de Trump, il y a en quelque sorte un désir de liquidation des années Obama et de la possibilité qu'a pu apporter dans la vie quotidienne des plus pauvres les deux mandats d'Obama, selon vous, Ted Conover?
I think you have to acknowledge that the groundswell
of support, mais en tout cas, le soutien important envers Trump indique qu'il y a pas mal de gens qui veulent un changement radical et qui veulent oublier le passé. La première chose qu'ils veulent oublier, c'est le Parti républicain, ce vieux parti républicain. Et en fait, on est en train d'assister peut-être au début de la fin du Parti républicain. Et peut-être qu'on assiste à la formation d'un nouveau paysage politique aux États-Unis. À mon avis, il existe encore une pluralité politique aux États-Unis. Plus de la moitié des Américains croient encore à la Constitution, croient à nos textes fondateurs, à l'égalité, au partenariat entre les États-Unis et d'autres démocraties dans le monde. La majorité des Américains ne veulent pas le chaos. Et nous ne voulons pas être un État renégat, qui est le risque que nous avons avec Donald Trump. Donc, à mon avis, nous allons assister à une majorité qui va faire une levée de bouclier contre Donald Trump. Mais Donald Trump parle au nom d'une grande colère, et cette colère, il va falloir la traiter d'une façon ou d'une autre tout de même.
Alors, Donald Trump tient des propos très isolationnistes en ce moment, dans la campagne qu'il mène. Et vous, Ted Conover, vous n'avez de cesse depuis 30 ans maintenant, en faisant donc l'écriture du voyage, en revêtant de multiples identités, de comprendre comment on vit justement dans le métissage des cultures. Et le dernier travail, je crois, que vous avez fait, en tout cas qui nous est parvenu en France, c'est un voyage absolument incroyable au pays des Chinois riches qui maintenant se divertissent en partant en bagnole et en ignorant les lois de leur propre pays pour s'étourdir. Pourquoi et comment avez-vous fait ce voyage?
China is changing so fast.
Eh bien, la Chine, comme on le sait, est un pays qui connaît une mutation très rapide. Et moi, j'essaie toujours de trouver un moyen de décrire un phénomène important qui se passe à l'étranger pour que les Américains puissent comprendre. Au début de l'épidémie du sida, j'ai décrit la situation des camionneurs africains qui répandaient le virus du sida, parce que les Américains aiment bien les camionneurs. Donc je me suis dit que ça pouvait intéresser les gens. Et en Chine, je me suis dit qu'un club de conducteurs, ce serait un bon sujet, parce que les Américains sont tellement amoureux de leur automobile qu'il y aurait forcément un intérêt à voir les Chinois aimer leurs automobiles de la même façon. Et avec la même passion, ils prennent le volant, les voilà partis en convoi pendant 12 heures par jour avec des radios CB et ainsi de suite. Ils boivent beaucoup avant d'aller se coucher, puis ils se réveillent le matin, ils repartent sur la route. Enfin bref, il y a là cette énergie totalement débridée, et j'ai trouvé cela totalement irrésistible. En fait, C'est pour ça que j'ai moi-même voulu reprendre le volant.
Alors, dans les multiples identités et les multiples jobs que vous avez adoptés pour pouvoir nous dire la diversité du monde, Ted Conover, nous n'avons pas parlé de votre travail dans une usine de saucisses en Espagne. Nous n'avons pas parlé du bénévolat que vous avez fait pour le programme d'aide sociale Vista à Dallas. Nous n'avons pas parlé de votre voyage dans tous les États-Unis à vélo. Quel est votre prochain challenge?
I'm always exploring new possibilities.
J'explore toujours de nouvelles possibilités.
I'm afraid that the rise of the internet has made it easier for some people to figure out who I am.
Il soit plus facile pour les gens de comprendre qui je suis.
Recently failed to get a job.
Récemment,
because somebody
m'a refusé un emploi parce qu'à la dernière minute,
thought they could see my ulterior
l'employeur m'avait reconnu. Il a bien compris ma motivation, mais je ne baisse pas les bras.
Vous êtes trop connu alors pour continuer à travailler comme vous le faites.
It's a terrible burden, fame.
Quelle charge, cette renommée. Non, mais je ne suis pas victime de ma renommée, loin de là. J'essaie de garder un profil bas pour continuer à faire ce travail que je juge important.
Dans le bouquin qui nous parvient, le premier qui nous parvient en France, qui soit traduit, qui s'intitule « Au fil du rail », Ted Conover, vous nous racontez au début de ce bouquin comment vous allez devenir un obos, un clochard céleste. Et vous écrivez « J'endossais mon petit sac à dos et mon duvet, accrochais l'autre bagage à mon cou, ramassais mon bidon d'eau et les jambes en coton me levaient. J'étais maintenant à découvert. » Êtes-vous sûr que vous êtes vraiment à découvert?
I felt it was ethical.
Moi, je me suis dit qu'il serait éthique d'expliquer un petit peu ce que je fais. Donc, pendant les deux premières semaines, j'expliquais aux gens que j'étais étudiant et que j'étais pas un vrai hobo. Et il s'est produit deux choses. Il y a un hobo que je connaissais bien qui m'a conseillé de ne pas faire ça parce qu'il m'a dit « Tout le monde va penser que tu essayes de te hisser au-dessus d'eux. » Et puis, il y a certains qui vont essayer de profiter de la situation pour lui piquer tout ce qu'il a parce qu'il est naïf, il n'a pas l'expérience qu'il faut pour être SDF. Donc, pour diverses raisons, j'ai arrêté de dire à la plupart des gens ce que j'étais en train de faire.
I do prefer to be straightforward with people.
Je préfère, dans la plupart des cas, être direct avec les gens. Et dans mon deuxième livre, Coyote, j'ai expliqué à tous les Mexicains ce qui m'intéressait et ce que je faisais. Mais de temps en temps, on ne peut pas dire tout à tout le monde en même temps, vous voyez? Donc parfois, il faut faire preuve de stratégie.
Bon, bah écoutez, on ne vous demandera pas ce que vous allez faire dans les six prochains mois. Mais on espère que vous en ferez un bouquin qui sera traduit en français.
I hope so too. I love talking about my work here. It's a great privilege.
Pouvoir parler de mon travail ici en France, c'est un privilège pour moi de m'exprimer à la radio, Radio France. Merci.
Merci beaucoup, Ted Conover. Je rappelle que votre seul ouvrage, et j'espère que les autres vont être traduits aussi en français, vient d'être publié par les éditions du Sous-Sol. C'est un magnifique livre de littérature. Il s'intitule « Au fil du rail ». Merci à notre traducteur simultané, comme toujours excellent. Merci Xavier Combe. Merci aussi à Corinne Amar, Samuel Bernard, Élodie Royer, Pierre Monteil et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture.